ce message, c'est le salaire convenu, Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Et ça concerne donc, comme il dit, le royaume des cieux est semblable à. Donc c'est encore une parabole qui parle du royaume des cieux. Et donc pour vous rappeler, le royaume des cieux, dans la parabole de l'ivraie, qui était semé dans le champ de blé, était défini comme le temps entre les deux venues de Jésus-Christ. Ils viennent deux fois. Ils viennent une fois pour obtenir pour nous le salut. Et ils viennent une autre fois en jugement. Donc, il nous donne tout ce temps entre son premier venu et le second venu pour croire en lui. Et à la fin de cette période, ceux qui n'ont pas cru en lui, donc, seront condamnés. Par la suite, il y aura le royaume de Christ, le millénium. Ça, c'est par la suite. Donc, il est bien défini, le royaume des cieux, c'est ce temps, c'est toute la planète, tous l'évangélisation qui pourrait avoir lieu, toutes les possibilités que toute personne pourrait venir à Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix il y a presque 2000 ans. Voilà, ok. Donc ça, c'est un petit arrière-plan. Cette parabole concerne les promesses de Dieu. Ça concerne la justice de Dieu et aussi la grâce de Dieu. Et on voit ici que, comment dire, le maître de maison, il va sortir cinq fois pour chercher des ouvriers pour son vendange. Je pense que je prononce correctement, le vendange.
Vendange,
merci. Merci. Donc, l'idée, c'est que les raisins sont mieux. Ah ben, on a un petit peu de temps là pour faire le vendange. Et donc, il faut tous les ouvriers possibles. Et donc, ils sortent, cherchant des ouvriers. Il est convenu entre les premiers ouvriers à 6 heures du matin. Ce sont vraiment des gens qui sont pressés pour trouver du travail. Eh bien, il est convenu avec ces gens-là que le patron va leur payer un salaire de 1 denier par jour, ce qui est un salaire correct. On a déjà parlé de ça. C'était le salaire habituel à cette époque-là, 1 denier par jour. À la fin de la journée, les gens qui n'ont travaillé qu'une heure ont reçu un jour de paie. Et les gens qui ont travaillé toute la journée ont reçu un jour de paie. Voilà, globalement, ce que raconte cette parabole. Cette parabole vient suite à un jeune homme riche qui a voulu être sauvé. Et donc Jésus a dit que oui, je veux bien. Il avait suivi tous les commandements. Il n'y avait qu'un tout petit problème, c'est que pour lui, c'était ses richesses qui bloquaient le chemin parce qu'il avait confiance dans ses richesses. Et Jésus a dit, c'est difficile pour une personne riche de venir dans le royaume des cieux parce qu'on vient comment dans le royaume des cieux? On vient comment à Dieu? On vient par la foi, par la confiance. On a confiance en Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, et on se remet à lui pour le pardon de nos péchés. Mais on a trop souvent d'autres choses qui entrent en jeu, soit notre travail, soit notre argent, soit nos chanteurs célèbres préférés, autre chose. Et on veut surtout ça plus que je veux être sauvé. Donc ça, c'est au chapitre 19. Et puis, Pierre, au verset 27, donc chapitre 19 et verset 27, je vais lire ces quelques versets-là. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, donc c'est Matthieu, chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Parce que le jeune homme riche ne voulait pas quitter tout. Et Pierre dit, ouais, voilà, nous, on a tout quitté. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Hein? Qu'est-ce que tu vas nous donner donc, hein? Maintenant qu'on a tout quitté. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, donc en parlant du millénium, quand il va renouveler toutes choses pour le royaume de Christ, je recommande, je vous le dis en vérité, quand le royaume de l'homme, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et donc, il va répéter cette dernière phrase à la fin du prochain parabole, ce qui nous donne l'idée qu'il est en train de parler un peu du même domaine. Donc, Pierre s'inquiétait de ce qu'elle allait recevoir. Et la réponse globale, c'est que Dieu va nous donner ce qu'il faut. Quand Dieu a fait des promesses, il va nous donner ce qu'il faut. Et globalement, dans cette parabole, on parle de récompense du salut. Et on voit que les activités à travers la journée, quoi que soient les activités, et la longueur du travail ou la courte durée du travail, n'a aucun effet pour le grand sujet, le salut. On reçoit tous le même salut parce qu'on a tous cru en Jésus-Christ. Alors, ça mis de côté, d'après ce que Jésus a dit dans ce petit paragraphe, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Mais une fois entré dans le salut, ce qui est le grand sujet, parce qu'on sera dans la présence de Dieu, ce qui est le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant, le plus glorieux, le plus de tout, hein, dans le sens absolu, eh bien, on a tout à ce moment-là. Mais il y aura quelques choses de différentes dans les diverses, on va dire, récompenses. Mais toutes ces petites choses dans le grand sujet d'un même salut en Jésus-Christ. OK? Donc, on ne parle pas des petites différences qui seront par la suite. On parle du grand sujet du salut. On est sauvé ou on n'est pas sauvé. On sera dans la gloire céleste ou on n'y sera pas. C'est ça le sujet ici. Donc, je voudrais parler, je divise le message en deux parties. Il y a un côté humain de cette parabole, et puis il y a un côté, on va dire, spirituel ou divin. Et je parlerai de ça par la suite. Donc, dans cette parabole, on voit premièrement que le patron est un homme honnête, un homme juste et bon, et évidemment, il est même généreux. Et nous devons être tous côté humain, comme ça. Hein? On devrait être honnête, juste, bon et généreux. Pas de problème. Patron est un bon patron. Bon, côté spirituel, le patron représente Dieu, le souverain, le grand patron. OK? Mais là, on parle côté humain. Les petites choses qu'on peut voir dans cette parabole. Après, on voit aussi que les ouvriers se rassemblent sur la place, la place du marché peut-être, pour chercher du travail. Donc, ils sont sortis à 6 heures, ils sont allés là. Donc, le patron est allé voir à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 3 heures et même à 17 heures. OK? Donc, tout au long de la journée, les gens se sont arrivés sur la place. OK? Donc, il ne dit pas pourquoi ils arrivent à des horaires différents. Peut-être qu'ils avaient une distance plus loin à marcher pour être là, pour avoir le travail. Mais le fait qu'ils sont là, c'est qu'ils veulent travailler. En Californie, il y a un magasin comme le Roi Merlin. Ça s'appelle Home Depot. Vous avez ça en Angleterre? Home Depot. C'est le dépôt comme qu'est-ce que c'est, dépôt, bricot dépôt, le dépôt pour la maison. Et il y a plein, c'est surtout les Hispaniques, mais aussi les autres Américains, qui se trouvent le matin dans le parking de cette grande surface pour le bâtiment, parce qu'ils cherchent du travail. Alors, s'ils sont là et quelqu'un cherche des ouvriers, il va les prendre. Je pense que ça se passe un peu à Paris aussi. dans le Moyen-Âge, c'était à la place des Grèves, à Paris, ce qui est maintenant l'hôtel de ville. Et les gens se rassemblaient là, et c'est là qu'on venait pour chercher du travail. Et le roi a cédé cet endroit pour surtout les marchands qui amenaient les choses par bateau, pour qu'il y avait les matériels qui arrivaient et puis les gens qui déchargeaient les bateaux. Mais bon, c'est une coutume qui dure depuis des siècles. Les hommes cherchent du travail. C'est normal. On a besoin du travail. Déjà, il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on fasse quelque chose. Aussi, il faut de l'argent pour payer nos factures, pour s'occuper de la famille. On a besoin du travail. Donc, c'est un besoin profond. Et depuis la création, Dieu voulait que l'homme, donc l'homme et la femme, et l'homme, soit actif, qu'il fasse quelque chose. Donc, de se trouver inactif, en anglais, une expression, idle mind is the playground of Satan, or the devil. Donc, il y a certainement une expression comme ça en français. Donc, une esprit inactif est porté vers le mal, va faire le mal. Okay? Donc, on ne veut pas qu'on reste trop inactif, n'est-ce pas? Il y a une expression comme ça en français? Je l'ai certainement transformé beaucoup. Nous faisons ma traduction d'anglais. OK, bon, si vous y pensez, vous nous le donnerez tout à l'heure. Donc, voilà, ils viennent parce qu'il veut travailler, il veut gagner donc le salaire, et ils vont mériter le salaire vis-à-vis de leur travail, les horaires qu'ils auraient travaillé dans la journée. Par contre, le patron, il reconnaît que tous ces hommes-là ont le même besoin. Ils ont tous une famille, ils ont tous un foyer, ils ont tous les factures, ils doivent tous payer quelque chose. Donc, lui, il voit que, en dépit de question des heures de travail, tous les hommes ont le même besoin. Un salaire utile qui paye les factures. Bon, côté spirituel, on parle de salut, on a tous besoin de salut. C'est le même besoin de salut. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup plus de péchés qu'il a beaucoup plus besoin de salut. Et qu'un autre a moins de péchés, il a donc moins besoin de salut. On a tous le même besoin du salut. Donc, le patron va, à la fin de la journée, payer un salaire juste, un jour de travail, un paye d'une journée. Et il va agir par la grâce. Parce que même si on n'a pas mérité un jour de paye, il va le donner quand même. OK? Au verset 10 et 11, on va lire ça. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Donc, ils sont mécontents. Ils sont contre le patron parce qu'ils se disent: ben nous, on doit obligatoirement mériter plus de l'argent parce qu'on était là plus longtemps. Le problème, c'est qu'ils étaient déjà convenus pour avoir un salaire. Donc, on voit un petit peu côté donc jalousie, égoïsme, cupidité, compétition, mauvaise pensée. Toutes ces genres de choses-là qui peuvent arriver dans nos pensées, quand on voit qu'un autre a plus d'avantages que moi dans tes domaines ou quelque chose, eh bien, toutes ces choses-là ne devraient pas exister parmi nous. Ça, entre les frères et sœurs, on ne doit pas être en compétition, on ne doit pas avoir une convoitise pour les richesses de l'autre ou pour la voiture, etc. On ne doit pas avoir les mauvaises pensées. Ces choses-là ne doivent pas exister parmi nous. Et en plus, ils sont mal fondés dans l'histoire. Hein? Parce que justement, le patron, il n'est pas injuste. On a l'idée au début, oh, c'est pas juste. Même nous, c'est pas juste. Mais il est très juste. Et en plus, il est très généreux. Et donc, quand il répond, il dit, ah, mais vous, je vous paie un denier. Et je me suis dit, tiens, je vais leur donner ce que je vous donne. C'est pas que je lui donne un denier et je vous donne deux. C'est que je vous paie votre salaire. Et je me suis dit, j'ai tout mon argent, je vais être généreux et leur payer la même chose pour qu'eux, ils vont rentrer à la maison et pouvoir nourrir leur famille, etc. aussi. Bon, ça, c'est bien différent que le communisme, n'est-ce pas? Hein? Chacun, il gagne son salaire et ça lui est à lui et il va faire avec son argent comme il veut. Et puis, il y a une phrase là que j'aime beaucoup, au verset 13. Il dit, donc, il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ?» Donc, il utilise cette phrase, « Mon ami. » Mon ami. Alors, quand il dit « mon ami », il parle à ceux qui sont hostiles. Donc, en fait, ils ne sont pas son ami. Ou ses amis. Il veut bien le lyncher. Mais il le dit quand même. Jésus utilise cette phrase 4 fois dans les évangiles. Même pour Judas. Judas ou Judas? Judas. Juste avant qu'il va le trahir. Parce que quand il appelle mon ami, il donne quand même une invitation à devenir son ami. Bon, ce que tu vas faire, mon ami, ce que tu vas faire, fais vite. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu veux, tu peux être mon ami et tu peux ne pas aller. Hein? Tu peux te convertir même aujourd'hui, même à ce dernier moment avant de me trahir. Donc j'aime bien ces phrases. Et je pense que nous, on devrait garder ça dans l'esprit des fois. Vous devriez appeler quelqu'un votre ami. Pas parce qu'il est votre ami, mais parce que vous voulez qu'il devienne votre ami. C'est une invitation à l'amitié. OK? Je trouve que c'est super, super profond ce que Jésus dit là. Quand il appelle ses ennemis mon ami. Hein? OK. Donc maintenant, je veux parler du côté de Dieu. Donc, on voit que Dieu est le maître de maison qui est dans cette histoire, le patron, et ils conviennent avec l'humanité de sauver celui qui croit en son fils Jésus-Christ. C'est le grand marché qui est offert à toute personne. C'est le même salut pour les premiers chrétiens, les apôtres, les autres qui se sont convertis dans le premier siècle, et puis tout à travers, jusqu'à nos jours, et puis jusqu'à la fin de la tribulation. Hein, dans la tribulation, il y aura beaucoup, beaucoup de convertis, il y aura beaucoup de martyrs. Hein. Et même ces gens-là, quand ils sont sauvés, ils auront la même vie éternelle, même pardon de péché, même vie éternelle que nous tous, les apôtres jusqu'à nous, jusqu'à eux. OK? C'est le même salut. Le salut est pour le croyant. Celui qui se débarrasse de ses autres confiances et qui se confie humblement en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité pour lui obtenir son salut. Puis, en attendant la récompense éternelle, Dieu attend à ce que les chrétiens soient à l'œuvre. Que les chrétiens soient actifs. Donc on va voir dans le verset 3 et le verset 6. Verset 3, il sortit vers le troisième heure, donc 9 heures du matin, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. et aussi au verset 6. Étant sorti vers l'onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Donc, Dieu veut que les chrétiens soient à l'œuvre. Et dans la parabole, donc le patron, il est étonné de trouver qu'il y a des hommes sans rien faire.
Il dit, « Oh, mais je n'étais pas invité à travailler. »
C'est certainement la réponse. Hein? Parce qu'ils ont dit, ben, « Personne ne nous a loué. Personne ne nous a donné du travail. » Mais le patron, il a toute une vigne à faire la vendange. Ou le vendange. Excusez-moi. Donc, ça nous rappelle que dans Matthieu chapitre 9, si vous voulez bien tourner là, Matthieu chapitre 9, Jésus a parlé de ce sujet. Matthieu chapitre 9, et c'est le verset 37 et 38. Verset 37. Alors, il, Jésus, dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Donc, dans la parabole qu'on est en train de lire, le patron, il va sortir, chercher de plus en plus d'ouvriers parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers pour faire le travail. Donc, le point là, c'est que, premièrement, le temps presse. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Il aurait pu revenir il y a 300 ans, il y a 500 ans, il y a 3 jours, n'importe. Il va venir quand il veut. Et il va revenir. Et l'invitation, si vous voulez, l'appel a été déjà lancé. Dieu appelle à tous les croyants être à l'œuvre. Donc, on devrait prendre l'initiative et avancer pour œuvrer dans le champ de Dieu, dans la vigne de Dieu, dans la moisson de Dieu. Et il ne faut pas attendre une invitation personnelle. Il ne faut pas attendre une révélation spéciale ou une lettre de la part de Dieu qui dit, « Billy, tu veux bien faire ça pour moi? » Il ne va pas le faire. Dans la parabole, il fait. Il va sortir, demander plus de monde à travailler. Mais il s'étonne à trouver qu'il y a des gens à rien faire. Ça, c'est étonnant pour le patron. Ils auraient dû aller, ils savent où il y a du travail. Là, il y a du monde qui travaille là-bas. Ils auraient dû aller dans le champ et compter sur le patron à les payer de toute façon, avec cette initiative. C'est ça qu'il fallait avoir au lieu de ne rien faire pendant X heures. Aussi, versets 14 et 15. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Donc on voit ici, c'est l'idée que Dieu est bon et généreux. Dieu est bon et généreux. Il est ce Dieu qui veut sauver des gens, non pas selon leur mérite. Car nos mérites sont quoi? La condamnation. Le salaire du péché, ce n'est pas le salut. Le salaire du péché, donc ce que méritent nos péchés, eh bien, le verset dit, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le cadeau, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Dieu, il va agir par grâce, par générosité, par bonté, afin de pardonner nos péchés, c'est le besoin de nous tous. Ces récompenses sont toujours bonnes et équitables. Il ne faut pas vous inquiéter que Dieu soit méchant. Dieu n'est pas méchant. Qui est méchant? Le diable. C'est le diable qui est méchant. Nous aussi, on peut être méchants, nous. Mais vraiment, le mal vient du malin. Et ce n'est pas Dieu. Dieu est bon. Il fait le bien. Il nous aime. Il vous aime. Et bien sûr, Jésus a payé le prix de nos péchés sur la croix. Alors, je voulais terminer avec une citation. Je ne connais pas l'auteur. Il a dit, « Le Dieu d'amour et de compassion aura toujours incontestablement le dernier mot. » Ce qui est le cas dans cette parabole. Donc, pour répéter ce que j'ai dit au début, vous pouvez compter, donc avoir confiance, vous pouvez compter sur les promesses, la justice et la grâce de Dieu. Amen.